Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec vous, Katane Reina Falcao, la rédaction en portugais.
Boa tarde a todos.
Pour la rédaction en anglais, Melissa Chemam.
Good evening.
Et Nasser Etemadi, la rédaction persane.
Et Chaperé.
Ce soir, le secrétaire général de l'ONU met en garde le gouvernement américain sur les effets dévastateurs, dit Antonio Guterres, des coupes claires dans les budgets humanitaires décrétés par Donald Trump. Il veut réaliser, le président américain, 60 milliards de dollars d'économies dans les programmes de USAID. Alors, quelle réaction sur le terrain, Mélissa, notamment dans les pays les plus touchés par de graves crises, notamment l'Afrique?
Oui, alors par exemple à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cette semaine avait lieu la présentation du plan de réponse humanitaire pour 2025. L'objectif, mobiliser 2,54 milliards de dollars auprès des bailleurs de fonds internationaux. Vous l'imaginez, désormais, c'est une enveloppe qui va être encore plus contrainte que les années précédentes en raison de cette crise. De plus, le Royaume-Uni a également annoncé cette semaine une baisse de son budget consacré à l'aide qu'il veut consacrer aux questions militaires. Au Soudan, par exemple, on traverse une des plus graves crises humanitaires de l'histoire et les organisations travaillant au Darfour font état d'une aggravation de la famine, de graves pénuries d'eau potable et de fournitures médicales, notamment pour des vaccins pour la petite enfance.
MSF a également annoncé avoir suspendu ses opérations dans le camp, affirmant que la situation sécuritaire est insupportable.
Oui, tout à fait. Le camp de Zazam au Soudan et l'arrêt des financements américains au programme de lutte atteint également la lutte contre le sida, notamment en Afrique du Sud. Cela pourrait entraîner plus de 500 000 décès sur 10 ans, d'après le directeur d'une fondation, la fondation Desmond Tutu pour le VIH. De plus, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, a annoncé ce vendredi qu'elle étudiait l'impact de ces coupes drastiques et que des millions d'enfants sont déjà affectés, déjà là, dès cette semaine, par ces gels imposés. J'ai également parlé sur le terrain à un responsable d'une ONG au Kenya. Il s'appelle Jeffrey Okoro. Il dirige l'ONG CFK. On l'écoute.
We have had a huge number of healthcare workers reporting low morale and basically being.
Que dit Jeffrey Okoro?
Alors, ce qu'il nous dit, c'est que déjà les travailleurs de santé ont rapporté un moral au plus bas. Ils ont déjà peur de perdre leurs emplois à cause de ces coupes budgétaires. Ils ressentent le gel très concrètement sur le terrain. Par exemple, maintenir les lignes d'approvisionnement dans la lutte contre le VIH a été perturbée par la situation. Des hôpitaux ont fermé, des spécialistes ont dû arrêter leur travail partout dans le pays. Et cela a porté atteinte, par exemple, aux efforts déployés pour lutter contre le VIH et la tuberculose. Également, dans leur vie quotidienne, des cliniques près de chez travailleurs ont fermé.
Katharina, vous étiez à Addis Abeba il y a quelques semaines pour le sommet de l'Union africaine. La fin des aides américaines inquiète les chefs d'État africains.
Oui, c'était même un thème récurrent. Pas juste les aides au continent, mais toutes les actions que Donald Trump mène depuis la Maison-Blanche. Spécifiquement sur les aides et la fin annoncée de l'USAID, cette agence d'aide internationale, j'ai interviewé Wilson Almeida Adão, président du comité de l'Union africaine pour les droits et bien-être des enfants. On va l'entendre.
C'est une notice très triste que nous recevons au niveau de l'Union africaine.
Que faut-il comprendre?
Il explique que c'était une triste nouvelle après plus de 40 ans de coopération entre les États-Unis et l'Union africaine. Il explique que l'aide nord-américaine a un vrai impact pour les communautés en différents pays africains, surtout par rapport à l'éducation et à l'aide alimentaire, et qu'il fait un appel aux autorités pour qu'ils réconsidèrent cette décision.
Est-ce qu'il vous a expliqué comment cette aide arrive aux gens en Afrique?
Oui, exactement comme Elissa venait de dire. Sans cette aide, il dit que millions de personnes pourront rentrer en situation d'insécurité. Sécurité alimentaire ou, si on veut dire les choses telles qu'elles sont, en situation de famine. En effet, l'Université de Denver a estimé que 5,7 millions de personnes pourraient entrer en situation de pauvreté extrême en Afrique à cause des coupes budgétaires de Donald Trump. Selon Wilson Almeida Adão, une grande partie des programmes sont littéralement à l'arrêt en attendant des décisions très contradictoires de Washington.
N'est-ce pas contradictoire dans la mesure où le président Trump avait dit que l'USAID c'était fini?
Exactement, mais effectivement, C'était sa volonté. Mais parmi les représentants des différents pays africains auxquels j'ai pu parler à Addis Abeba, la plupart n'avaient aucune nouvelle de cette agence depuis l'arrivée de Trump. Le New York Times a publié une lettre de l'ambassadeur des États-Unis au Mozambique où il est alerté pour les dangers de la sortie forcée de travailleurs humanitaires américains du pays ou la fin des contrats avec des travailleurs locaux. Le Mozambique est l'un des pays africains qui perçoit le plus d'aide des États-Unis, environ 1,5 milliard de dollars. Cet argent sert surtout à nourrir les populations plus dépourvues, mais aussi à la prévention de certaines maladies comme le sida.
Et il y a cette anecdote ayant comme protagoniste Elon Musk, le conseiller très spécial de Donald Trump.
Oui, voilà, c'est pas une super anecdote. Donc, dans un briefing officiel de la Maison-Blanche, la porte-parole Caroline Leavitt a rassuré les Américains que son argent était bien dépensé et que le président avait arrêté une livraison de préservatifs vers la bande de Gaza. Cette livraison de 50 millions de dollars en préservatifs irait au groupe terroriste Hamas, une vérité entre guillemets répétée par Elon Musk, qui dirige le cabinet pour l'efficacité des agences publiques nord-américaines. La vérité est bien plus complexe. Les préservatifs étaient effectivement destinés à Gaza, mais Gaza, une région au sud du Mozambique. Dans cette région, environ 25% des habitants sont touchés par le sida, selon les chiffres de la propre USAID.
Oui, Gaza qui est une région du Mozambique.
Exactement,
c'est bien ça.
Pas la bande de Gaza.
Ouais. Nasser, la décision du président américain a été accueillie favorablement par le gouvernement iranien, critiquée largement par l'opposition.
Et effectivement, c'est que l'aide financière américaine, en ce qui concerne l'Iran, soutenait exclusivement les projets et les actions d'une partie de la diaspora pour la défense des droits de l'homme en Iran, et surtout pour la lutte contre la censure à travers la création des médias indépendants. Les Iraniens ont vu, en effet, dans cette décision, un changement d'attitude politique envers le régime islamique, à savoir encourager finalement les politiques répressives, ce qui revient à dire encore aux yeux des Iraniens que les États-Unis ne les soutiennent plus désormais dans leur quête de la liberté.
Vous avez lu le journal conservateur de la municipalité de Téhéran qui s'appelle Amshrari.
Exactement, on y lit que les contre-révolutionnaires, je le cite, qui fêtaient jusqu'alors l'élection de Donald Trump comme l'annonce de la fin de la République islamique, voient maintenant leurs propres ressources coupées par celui-même qui était censé les aider à s'émanciper. En effet, plusieurs dizaines d'associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, ainsi que des médias iranophones contre la censure, travaillaient grâce au soutien financier américain, dont la suspension vient de mettre un arrêt brutal à leurs activités. On ne connaît pas le montant exact alloué par les États-Unis aux groupements ou individus de la diaspora iranienne, mais on sait que la totalité de l'aide financière consacrée au développement de la démocratie dans l'ensemble de Moyen-Orient ne dépassait pas 65 millions de dollars.
Et j'ajoute que la suspension de cette aide prive aujourd'hui 20 millions d'Iraniens, c'est-à-dire un cinquième de la population iranienne, des services des VPN pour contourner la censure d'Internet en Iran.
20 часов в Париже,
22
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Katharina Falcao, vous nous avez fait part de votre présence au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Ce sommet avait comme principal thème que les pays africains veulent être aujourd'hui dédommagés pour la période coloniale.
Exactement. Mais déjà, le dédommagement plus simple, c'est exactement la reconnaissance historique de ces abus. Il y a des idées pour des compensations financières, bien sûr, restitution des œuvres d'art, mécanismes de pardon des dettes, mais surtout, les leaders africains veulent que l'histoire de la colonisation ne soit pas effacée et que cette histoire puisse aider à justifier l'écart de développement entre continents. J'ai parlé avec Odair Varel, un professeur à l'Université du Cap-Vert à Praia, et il veut surtout que cette mémoire du colonialisme ne soit pas effacée par les mouvements d'extrême droite en Europe. On va l'écouter.
No caso californiano, a reparação ou a restituição vai em linha com os combates da atualidade?
Aidez-nous à comprendre.
Dans le cas du Cap-Vert, il n'y a pas de restitution patrimoniale à faire, mais Odair Varel considère que c'est important de donner une nouvelle signification et contextualisation au patrimoine construit par les Portugais et Cap-Verdiens dans l'archipel. Surtout, il considère que si nous regardons le passé juste par rapport aux faits héroïques ou dans la perspective d'un grand empire, comme le fait actuellement l'extrême droite portugaise, nous nions pas seulement la souffrance des peuples africains, mais aussi des Portugais qui se sont battus contre le régime Salazar. Les Cap-Verdiens veulent surtout la fin de la discrimination de leur diaspora lorsqu'ils partent au Portugal ou dans d'autres pays européens à la recherche de meilleures conditions de vie.
Voilà donc pour la vision d'un historien, mais quelle est celle du gouvernement maintenant?
À Addis Abeba, j'ai pu interviewer aussi la secrétaire d'État aux affaires étrangères du Cap-Vert, Miriam Vieira, et pour elle, les réparations doivent être un moment de réconciliation entre peuples.
C'est une thématique qui doit être vue avec alguma justesa et avec alguma...
Que vous a dit Miriam Vieira?
Pour cette gouvernante cap-verdienne, l'aide au développement humain en Afrique, c'est la plus importante réparation à faire. L'aide à une éducation de qualité dans les continents, avec des programmes d'échange, construction d'écoles, ou même formation des professeurs, sont les sujets importants à discuter pour trouver la tant voulue réconciliation entre le Nord et le Sud.
Alors, il a été question de politique également. Hein. Le sommet était marqué par les conflits actuels en Afrique, surtout entre la RDC et le groupe rebelle M23, soutenu d'après l'ONU par les troupes du Rwanda.
Complètement, c'est un conflit qui a marqué vraiment cette réunion des leaders africains. Félix Tshisekedi, président de la RDC, n'est même pas venu à cause de l'avancée des rebelles du M23 dans le Kivu Sud, mais sa première ministre était présente et a représenté le pays au Conseil de paix et sécurité pendant le sommet. Un moment tendu où Paul Kagame, président du Rwanda, s'est entretenu tout seul avec João Lourenço, président angolais, et présenté comme champion de la paix pour le bloc panafricain. J'ai pu parler de ce conflit avec le président de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, qui a dit que tous les Africains méritent de vivre en paix.
Ce qui está a acontecer no leste da RDC.
Il ne comprend pas comment un pays peut s'allier avec des rebelles contre un voisin. Pour lui, le déplacement des millions de personnes à cause de la guerre en plein XXe siècle, c'est choquant. Il dit condamner les agissements du Rwanda parce qu'il ne veut pas être complice de ce conflit.
Alors, il n'y a pas eu de position commune à la fin de ce sommet pour condamner le Rwanda. Et c'était un sommet particulièrement important pour les pays africains de langue portugaise également?
Oui, après 20 ans, la présidence tournante de l'Union africaine appartient à nouveau à un pays de langue portugaise, cette fois-ci l'Angola. C'est la première fois que ce pays prend cette responsabilité, surtout dans un moment phare pour le continent. Les problèmes étaient reconnus par le président João Lourenço quand il a pris la parole à Addis Abeba. Voilà, là, il nous dit qu'avec son expérience d'une guerre civile qui a marqué l'Angola pendant 27 ans, il pense pouvoir apporter au moins son expérience à la résolution de conflits en Afrique. Même si ça fait presque 3 ans qu'il essaie de calmer les tensions entre Kinshasa et Kigali, jusqu'à maintenant, sans grand effet.
Catarina Falcao, de la rédaction en portugais de RFI. Revenons à présent avec la rédaction en anglais sur les enseignements à tirer des sommets du G20 en Afrique du Sud. Les tentatives des pays du Sud de maintenir les discussions sur le climat. Mélissa Chemam, l'Afrique du Sud assure pour la première fois la présidence tournante de ce groupe qui représente donc les 20 premières économies mondiales, dont la Chine, le Brésil, les États-Unis, la Russie, la France ou encore l'Union européenne.
Oui, en effet, mais ces premiers rendez-vous ont eu lieu tout ce mois de janvier et ils ont malheureusement été boudés par les membres du gouvernement américain. C'est pourquoi l'Afrique du Sud a exprimé sa consternation. Elle a accueilli cette semaine des ministres des Finances pour des discussions sur des questions économiques globales, mondiales. Mais évidemment, cette fois encore, elles se sont terminées sans consensus. Et notamment pour les questions liées au financement du changement climatique, celles-ci ont été éludées. Alors le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à ne pas abandonner la nécessaire coopération internationale en ces temps de crise.
Écoutons-le.
The erosion of multilateralism presents a threat to global growth.
Qu'a dit Cyril Ramaphosa?
Alors pour lui, l'érosion du multilatéralisme constitue une menace pour la croissance et la stabilité mondiale. Il est donc essentiel de veiller à ce que les droits et les intérêts des plus vulnérables ne soient pas bafoués par les ambitions des plus puissants. Il explique que n'importe quel dirigeant africain pourra raconter comment les écoles et les hôpitaux sont emportés par des inondations comme on ne les a jamais vues auparavant, dont ils savent maintenant qu'elles sont dues au changement climatique. Et ils ne sont pas en mesure de reconstruire ni les ponts ni les routes sans imposer de lourds fardeaux de dettes. Donc, le G20 doit faire preuve de leadership mondial pour remédier aux déséquilibres qui persistent. Et nous devons déployer des efforts délibérés et coordonnée pour nous concentrer sur une croissance inclusive. Enfin, il finit en disant « si l'Afrique se développe, le monde se développe ».
Comment les autres invités à ces sommets ont-ils réagi, notamment les acteurs des sociétés civiles africaines ?
Alors c'est ça, ils demandent à ce que les membres qui sont présents soient plus ambitieux, qu'ils continuent d'être optimistes en fait, pour pousser, malgré les absences, à fixer des objectifs clairs, notamment en matière climatique. En ligne de mire, on a évidemment les négociations à venir sur le climat au Brésil en fin d'année, en novembre. J'ai pu parler à ce sujet à Vumile Senene. Il est responsable national du Clean Air Fund, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Il dit craindre que
l'élan acquis au fil des ans ne commence à faiblir en raison de ce contexte et d'autres problèmes mondiaux urgents. Il pense que cela aura certainement un impact significatif sur l'agenda du changement climatique, qu'il s'agisse des questions d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Nous vivons une époque très particulière avec des menaces qui pèsent sur tous les progrès réalisés dans le domaine.
Mélissa Chemam de la rédaction anglophone de RFI. Après les défaites infligées par Israël au gouvernement iranien et ses alliés dans la région, les autorités de Téhéran ont tout fait pour transformer les funérailles de Hassan Nasrallah, c'était vendredi dernier, en signe de vitalité du Hezbollah et de ce que le gouvernement iranien continue à appeler l'axe de la résistance contre Israël. Nasser et Temadi de la rédaction Persane, les Libanais ont haussé le ton cette fois.
Effectivement, au président de l'Assemblée iranienne et de ministre des Affaires étrangères de la République islamique à Beyrouth, Joseph Aoun, le président libanais, a dit sèchement que son pays en a assez, être le sol des guerres des forces étrangères contre d'autres États et qu'il est grand temps que le gouvernement iranien cesse ses ingérences, respecte l'indépendance et la souveraineté nationale de Liban.
Ouais, un message sans détour et sans embâge.
Tout à fait. Par son ton et son style direct, il a fait comprendre aux Iraniens que les choses ont changé. Le Liban n'est plus le terrain de chasse de la République islamique et que celle-ci et le Hezbollah ne sont plus ce qu'ils étaient avant, notamment après la chute du régime d'Assad en Syrie. Et que la déroute de Hezbollah et de Hamas sous les coups assurément de l'armée israélienne. Mais apparemment, à Téhéran, la pilule ne passe toujours pas. Le gouvernement iranien a toujours du mal à accepter la nouvelle donne et l'effondrement de son axe de la résistance à la suite des coups sévères que lui a infligé Israël. Pourquoi ? C'est la question que nous avons posée à Hassan Hashimian, citoyen arabophone iranien, bon connaisseur d'ailleurs des questions iraniennes et des pays arabes, à Washington. Je vous invite à l'écouter.
Quelle
est son analyse ?
D'après notre invité, qu'on le veuille ou pas, la situation de la région en l'espace de quelques mois s'est tournée contre la République islamique d'Iran et son allié le plus important, le Hezbollah libanais, en sorte qu'il n'est pas exagéré de dire que les funérailles de Nasrallah furent symboliquement le deuil de la politique de la République islamique et du Hezbollah dans la région.
Et il faut rappeler que la délégation iranienne a été la seule à être officiellement présente à ces funérailles.
Et encore, le régime iranien a pratiquement imposé, en dépit de tous les protocoles, sa présence, soi-disant officielle, aux funérailles de Nasrallah. C'est que le président libanais a refusé, par exemple, d'inviter son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, à y être présent. Quant au ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, il s'est rendu à Beyrouth sans invitation de son homologue libanais. Seul le président de l'Assemblée iranienne avait reçu une invitation de la part de son homologue libanais, Nabi Bari, chef de mouvement chiite Amal, allié traditionnel de l'Iran, au même titre que le Hezbollah, mais qui est en train lui aussi de retourner sa veste doucement mais sûrement.
Alors ça c'est aujourd'hui, c'était impensable il y a encore quelques temps.
Effectivement, la grande majorité de Libanais n'a jamais accepté en fait les ingérences iraniennes dans les affaires de leur pays via les intimidations exercées par le Hezbollah. D'où l'absence significative des alliés traditionnels de Hezbollah, comme Michel Aoun, ancien président libanais, aux funérailles des chefs de Hezbollah. Certains, comme Jebran Bassil, se sont contentés, dans le meilleur des cas, d'un message de condoléances sur les réseaux sociaux. D'aucuns, en tout cas, des courants politiques importants, depuis Saad Hariri jusqu'à Sami Jaja ou Walid Jumblat, les maronites et les partis sunnites n'ont pas voulu assister aux funérailles de Nasrallah et de son successeur, ce qui a certes provoqué la colère. colère du Hezbollah, mais qui a été en même temps une mise au point à l'adresse du Hezbollah et de son protecteur major, le gouvernement iranien.
Nasser Etemadi, de la rédaction Persane de Radio France Internationale, dans Accent du Monde.